n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Je suis Charlotte, cofondatrice de Juillet, une agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui, avec audace, ont choisi de vivre passionnément. Ce rendez-vous est une rencontre avec des personnes inspirantes et peut-être une rencontre avec vous, avec cette personne que vous serez demain. C'est la saison 3 de l'Instant Juillet, alors posez-vous, respirez, et puisqu'il n'y a pas de hasard, découvrez notre invité dont la rencontre bouleverse notre chemin, et pourquoi pas le vôtre.
Voici le 41e épisode de l'Instant Juillet, c'est le dernier de notre saison 3, mais également le premier pour moi au micro de ce podcast. Et oui, un an après être passé sur le grill de la personne interviewée, je me retrouve cette fois dans la position encore plus inconfortable, celle de l'intervieweur. Mais si je le fais aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, une très bonne raison même. En fait, c'est bien simple, je ne l'aurais pas fait pour n'importe quel autre invité, mais là, c'est un instant particulier, essentiel même dans l'histoire de Juillet. Pour ce 41e épisode, le dernier avant de commencer la saison 4, j'avais envie de vous présenter la voix et le visage de Juillet. Alors officiellement, dans le livret que nous laissons à nos clients, nos prestataires et notre réseau, c'est une femme de lettres qui s'attache à concevoir, écrire et figer vos instants. Toujours à l'affût des dernières tendances, elle adore créer les événements originaux. À l'écoute, elle se plie en quatre pour répondre à vos attentes et connaît tous les secrets pour faire de vos instants des moments inoubliables. Déterminée, elle fait face aux défis qui lui sont confiés et sait s'adapter aux imprévus. Tout ça est bien sûr vrai, chaque mot est pesé et authentique. Mais c'est pour le côté on ça, pour le côté off, je pourrais ajouter mille choses d'autres, dont nous parlerons sûrement lors de cet échange d'ailleurs. Mais surtout, surtout vous dire que la personne que vous allez entendre aujourd'hui s'appelle Charlotte et qu'elle est la cofondatrice du plus incroyable, du plus intense, vibrant et vivant des projets qui puissent exister, celui de rendre les gens heureux et de faire ressortir en eux leur invincible été. Vaste programme, non ? Alors ça va être un épisode assez particulier car habituellement c'est moi qui me cache derrière mon téléphone et ça m'arrange de lui laisser le micro, mais il nous semblait évident que cette dernière invitée de la saison devait être Charlotte et que c'était à moi et moi seul de lui poser des questions. Et ça n'est pas un hasard si nous enregistrons cet épisode maintenant. Notre aventure prend à nouveau une toute autre dimension pour les 3 ans de Juillet car après 14 ans au conseil départemental de Loire-et-Cher, Charlotte a choisi d'être libre en se consacrant pleinement à Juillet. Alors cet instant sera peut-être décousu mais il sera certainement unique et vrai. Au départ, ça peut sembler plus simple de préparer un podcast sur une personne qu'on connaît par cœur, mais finalement, ça n'est pas du tout le cas. Alors, comment vous la présenter ? Par quoi commencer ? Avec Charlotte, nous nous connaissons depuis 20 ans. Ça, vous l'avez tous déjà entendu et vous le savez tous. Mais en réalité, notre histoire commune, elle remonte à 2011. Et cette rencontre, ou plutôt cette deuxième rencontre, va tout changer et deviendra très certainement la genèse de Juillet. Alors, je suis aujourd'hui très heureux de vous présenter Charlotte, le temps d'un instant Juillet. Charlotte, bonjour.
Bonjour Cédric.
Tu le fais encore mieux que les invités. J'espère que tu es prête à passer de l'autre côté du micro, ce qui n'est d'ailleurs sûrement pas un exercice facile non plus pour toi. En tout cas, je vais tout faire pour te cuisiner et que nos auditeurs apprennent à te connaître, car même si tu es la voix et le visage de Juillet, comme je l'ai déjà dit, tu restes assez discrète sur pas mal de choses. Tu as ce don de faire parler les gens, on dit de toi que tu es maïeutique d'ailleurs, mais tu te confies très rarement, encore moins devant des milliers de personnes comme aujourd'hui. Alors je suis prêt à relever ce challenge de permettre à nos auditeurs, à notre communauté de découvrir qui est véritablement Charlotte. Dans notre épisode 0, nous expliquions notre envie de partir à la rencontre de personnes Juillet, celles qui, quel que soit leur métier, leur passion ou leur parcours, ont tout en commun de vouloir être la meilleure version d'elles-mêmes, de se remettre en question, d'avancer toujours et de profiter de chaque instant. Des optimistes qui nous ont inspirés, qui font notre cercle aujourd'hui, des personnes qui ont entrepris, qui ont réussi et qui nous boostent au quotidien. Alors forcément, il était temps de venir rencontrer la femme Juillet. Nous allons évidemment parler de notre agence, de ce que ce projet représente pour toi. Et puis j'espère que tu as préparé tes réponses sur la personne qui t'inspire le plus, sur ton artiste favori, tes lectures fétiches, les fameuses questions récurrentes à chaque épisode de l'Instant Juillet. Mais avant tout, tu ne vas pas y échapper. J'ai besoin que tu me dises, que tu nous dises à tous, qui es-tu vraiment, Charlotte ?
J'ai rien préparé du tout en vrai. Bravo, je trouve que t'es super fort. Je pensais pas que t'allais faire une intro aussi longue. Mais en fait, je me dis que tu peux carrément prendre ma place. Bravo. En dehors du fait que ça peut être émouvant pour moi ce que tu racontes. Ouais, une belle intro. Qui es-tu, Charlotte ? Charlotte, c'est une femme de bientôt 40 ans. Qui a passé sa vie à se passionner pour les autres et pour son territoire et qui, après avoir effectivement travaillé depuis 14 ans pour le Loir-et-Cher, a décidé de se consacrer pleinement au projet de sa vie.
Ce qui a un lien avec le territoire, pour le coup.
Qui a un lien avec le territoire, bien sûr. Bah, j'essaie de rester cohérente dans ma vie, même si je ne suis pas toujours, mais j'ai quelques trucs un peu cohérents quand même. Et donc ça, et voilà, et donc il y a 3 ans, on a créé Juillet. Le but, c'était évidemment d'en vivre pleinement. On a pris notre temps parce qu'il y a une petite pandémie mondiale et puis parce qu'on avait envie aussi d'installer la marque. Et voilà, t'es partie il y a 1 an et c'était mon tour et je suis très heureuse enfin de pouvoir le faire.
Bah, et puis c'est symbolique de retourner l'interview, je trouve, 1 an après. On part tous les deux au mois de juillet.
Ouais, bien sûr.
Et on fait l'interview à quelques jours d'intervalle. 1 an après, voilà, je trouve ça hyper fort.
Et puis voilà, le mois de juillet, pour nous, c'est important parce que effectivement, bah voilà, c'est le nom de l'agence, c'est sûr, mais c'est aussi la date à laquelle on a créé juillet. Et notre année juillet, elle commence de juillet à juillet. Et donc voilà, aujourd'hui, on finit la saison avec mon arrivée pleine et entière dans juillet. Et j'ai hâte de commencer la saison 4.
Alors, j'ai hâte aussi de commencer la saison 4.
Tu l'attendais, quoi. Ouais. Ça fait 1 an que tu bosses tout seul, faut le dire aux gens quand même. Ouais. Donc, t'en as marre, peut-être, je comprends.
Donc, 14 ans au conseil départemental, c'est ça. 14 ans, 2 peut-être, ou 13 ans, 8, j'ai arrondi, 14 ans.
J'ai fait un peu... Ouais, 14 ans, ouais. C'était chouette.
C'est que t'avais commencé un peu avant, non, c'est ça?
Ouais, parce qu'avant, j'ai commencé à l'ADELEC, qui était à l'époque une agence de développement économique qui était financée par le département. Et donc au départ, j'avais pas du tout l'idée d'être fonctionnaire territorial, pas du tout. J'étais pour une agence financée par le public, mais qui était privée. Et on travaillait pour l'implantation d'entreprises en Loir-et-Cher et j'ai adoré faire ça. Mais voilà, le département a décidé de supprimer cette agence et nous a réintégrés. Et donc je suis arrivée un peu par hasard au département, mais finalement, il n'y a jamais de hasard. Et je me suis mise à être fonctionnaire territoriale, ce que j'avais pas du tout prévu, pour la grande joie de mes parents d'ailleurs, qui trouvaient ça vraiment très bien. Et même moi, j'ai adoré travailler pour le département. Et puis tu le sais, parce qu'on a eu des longs débats là-dessus aussi, j'ai adoré travailler pour la politique, au sens noble du terme. J'ai toujours été très passionnée par la politique, par l'investissement qu'on peut avoir pour notre pays et pour notre territoire. Je trouve ça hyper important de s'investir sur ces questions-là. Et je sais que toi, tu l'es aussi. On n'était pas toujours d'accord, donc on a eu des grands débats politiques. Mais voilà, j'ai vraiment adoré...
On n'était pas toujours d'accord au début.
T'es adapté. Je pense que je t'ai
C'est ça, je me suis améliorée à tes côtés.
Voilà, c'est okay. Ça, exactement. Tu t'es rallié à mon avis, ce qui est quand même logique, vu que j'ai raison. Enfin, voilà.
Vu que j'ai toujours raison.
Voilà, il y a le toujours raison. Mais voilà, j'ai adoré vraiment... Quelles que soient mes missions, parce que j'ai fait plusieurs choses au département en 14 ans, l'avantage de travailler pour une collectivité, c'est que tu peux faire plein de missions très différentes, mais toujours à destination des Loir-et-Chériens. Et j'ai vraiment adoré travailler pour mon territoire. C'est un truc qui m'a passionnée. J'ai adoré ça, vraiment. Et je ne pars pas du département parce que je ne voulais plus travailler pour le Loir-et-Cher ou parce que je n'aimais plus mon travail, mais vraiment parce que j'avais un autre projet, quelque chose d'ancré et que j'avais un autre projet de vie derrière.
Pour le coup, pourquoi ce grand écart? C'est-à-dire entre un poste sécure, une fonction à responsabilité dans l'administration, et pourquoi passer comme ça, jour au lendemain, à un chef d'entreprise dans l'événementiel? Pour le coup, on est d'accord que c'est un virage à 180 degrés.
Tu peux dire qu'il y a un écart. Alors, il n'y a pas tellement d'écart. Faut pas croire que c'est hyper confortable et hyper facile d'avoir un poste dans une collectivité.
Non, j'ai dit sécure.
Ce que je veux dire, c'est que voilà, ça demande un vrai investissement quand on veut bien le faire. Il y a des tas de fonctionnaires territoriaux qui travaillent énormément. Je veux dire, faut pas opposer les deux métiers. Parce que j'ai été investie pleinement, mais tu as raison dans ce que tu dis et je sais pourquoi tu le dis. Parce que quand tu as.
Parce que c'est la question, peut-être aussi que pas mal de gens se posent.
Tout le monde, quand tu es. Alors, je sais, j'ai fait ma féministe de base, mais quand tu es une femme mère de famille, maman dont il faut des enfants dont il faut s'occuper, et que tu as 40 ans et que tu as un poste de direction bien payé et confortable dans une collectivité et reconnu, parce qu'en plus j'avais la chance d'avoir un poste très intéressant et voilà, on te dit mais pourquoi créer une entreprise où tu sais même pas si elle va marcher sur un secteur qui est clairement pas un vrai travail, parce que l'événement c'est la fête et c'est superficiel et c'est futile et c'est pas du tout important dans la vie, et en plus tu vas vraiment pas avoir de temps pour toi et pour ta famille, puisque quand tu es maman tu dois être à 4h30 à la sortie de l'école, voilà.
Et après une pandémie mondiale.
Et après une pandémie
mondiale.
Oui,
pour le coup,
mondiale.
Qui rajoute, c'est la goutte d'eau.
Vraiment, c'est tout l'inverse. Je pense autrement et j'ai toujours dit ça et je l'argumente et je le dirai encore 1000 fois. Justement parce que je suis maman et je veux dire à mes enfants, et je les élève comme ça, comme quoi tout est toujours possible et tout est ouvert et tout est libre. Et soyez libre de faire votre vie. Vous n'êtes pas dépendant de votre maman et votre maman n'est pas dépendante de vous. On est chacun des êtres humains libres et on apprend à être autonome ensemble. Donc voilà, déjà, ça c'est la première chose par rapport à mes enfants. Et ensuite, sur la sécurité de l'emploi, super. Mais non, enfin, la vie c'est pas ça. Moi j'ai pas envie de vivre une vie confortable ou en me disant quand je vais être à la fin de ma vie, ah bah c'est cool, j'ai gagné de l'argent et j'ai une vie confortable. Non. L'idée, c'est de faire une vie où on fait des choses importantes pour soi, où on a rencontré des gens, où on a découvert, où on a appris sur soi, sur les autres. Et
ça, cette façon de penser, elle vient récemment ? Elle est en toi déjà depuis des années ou...
Non, je pense qu'elle a toujours été là. Mais après, c'est vrai qu'il y a des temps pour tout. Effectivement, il faut être raisonnable. Moi, je ne vais pas ça, c'est le côté femme, évidemment. Quand tu as des enfants en bas âge, tu ne peux pas t'investir comme tu l'entends dans un projet professionnel. Tu as des temps pour tout. Aujourd'hui, voilà, j'ai des enfants qui sont plus grands et puis j'ai fait le tour aussi de ce que j'avais envie de faire au département. Et puis, il y a ce projet parce que, voilà, justement, enfin, c'est ce que je disais. En fait, la fête, la rencontre, le partage, de donner des moments conviviaux, des moments festifs, des moments de belles émotions aux gens, c'est ça qui est le plus important. Et justement, on l'a vu pendant la pandémie encore plus. On a besoin de vivre ensemble, on a besoin de ressentir des choses, on a besoin de l'art. Et c'est hyper important, la musique, toute forme d'art. Et donc, effectivement, je veux participer à ça et je veux me dire que je peux permettre aux gens que je fréquente, que j'ai la chance de rencontrer, aux entreprises de notre territoire, de pouvoir vivre des beaux moments dans nos lieux magnifiques ici. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, d'important. La fête, c'est hyper important et c'est un vrai travail. Et j'avais envie de m'y investir pleinement aussi parce que tu m'as obligée.
Voilà, c'est le message officiel, c'est ça. Parce que je t'ai obligé.
Non, mais parce que... Bah, le vrai... Non, mais en vrai, l'histoire, mais on l'a déjà dit dans ton podcast, mais c'est important
non,
quand même.
On a parlé de moi dans mon podcast.
Ouais,
là, aujourd'hui, on parle de toi.
Ouais, mais du coup, on n'a peut-être pas la même version du truc, quoi. Mais non, mais l'histoire au départ, c'est qu'effectivement, quand je suis bien installée dans mon poste au conseil départemental, tu me proposes, il y a presque 10 ans maintenant, de créer une asso où on va faire des festivals électro. Franchement, je suis justement tout juste maman à ce moment-là, je suis dans autre chose. Bien sûr, j'aime bien la musique, mais l'électro, pas plus que ça. Moi, je suis plutôt chanson française, tu vois, un truc un peu ringard, avec des textes, tu vois, des chansons à texte, l'intello un peu chiante, quoi. Et donc, l'électro, ça me parle pas plus que ça, mais t'as besoin de moi justement pour faire les trucs chiants, comme d'hab, tu vois, l'administratif, le truc que personne veut faire, et moi, je sais faire, donc... Au départ, je te dis oui, franchement, pour te faire plaisir, parce que je vois que ça te tient à cœur. Et dans ma tête, je me dis, de toute façon, il n'y arrivera jamais à faire un festival électro, que ce soit à Tours ou en Loire-et-Cher. Après, pour la suite, je me dis sincèrement, il pense qu'il va pouvoir faire ça, mais personne ne va le suivre.
Tu ne croyais pas de ouf en moi, visiblement.
Non, j'avoue. Parce que...
Parce que commercial, beau parleur.
Ouais,
tu dis,
et puis t'es un petit... Ouais. Non, j'y croyais pas du tout, mais bon, voilà, je l'ai fait quand même. Et au final, quand t'as réussi à lancer les nuits électro à Tours, je me suis dit, putain, ok, il l'a fait, il a réussi à le faire, bravo. Et j'ai vécu un moment super et je me suis dit, c'est ça la vie en fait. La vie, c'est de pouvoir emmener une asso, des gens qui te suivent, qui ont envie d'être là, qui sont trop contents d'organiser ça avec toi. et de voir des festivaliers qui te remercient mille fois pour le moment qu'ils ont vécu parce que ils ont rencontré leur chérie à ce moment-là, parce que c'était la première fois qu'ils voyaient tel artiste sur scène, parce que enfin voilà, des moments qui sont forts pour les gens dans leur vie. Et je me suis dit, mais il y a quoi de plus important dans la vie que ça, quoi, que ces moments de partage. Donc ça a été une première étape pour la suite. Et puis derrière, tu m'as dit, on crée une agence événementielle et on fait des événements pour les entreprises du Loir-et-Cher. Et quand tu m'as proposé ça, au départ, je t'ai dit, non, je veux pas. Je veux pas parce que...
Donc là, tu reconnais devant le grand public...
Ouais, c'est vrai que c'est la première fois que je l'ai dit.
Un nom qui n'était pas définitif. Je n'ai pas senti définitif, mais un nom pas pour l'instant.
Mathias, c'était un nom raisonnable, on est d'accord. C'était un nom de... je viens d'avoir un enfant... J'ai un poste, je viens d'avoir un beau poste au conseil départemental.
C'était pas un nom, tu n'y croyais pas.
Ouais.
C'était un nom.
Oui, contrairement à. Ouais, c'était pas un nom, j'y croyais pas, c'est vrai. J'avais vraiment très envie. Et j'avais vraiment très envie de le faire avec toi, vraiment. Mais c'était plutôt un nom de. Ah, tu te rends compte, je peux pas oser faire ça si je le fais. Le confort de vie, financièrement je prends un risque, les enfants, tu vois, plutôt un nom de on m'a pas élevé comme ça, c'est pas, ça va pas être facile, je le sens pas, comment je vais l'assumer, quoi. C'était plutôt ça.
Ouais, il manquait quoi, peut-être des études de marché, t'avais besoin de chiffres pour être vraiment convaincu à
100%. Ouais, tu parles, tu dis ça, tu te moques, les chiffres, je comprends rien aux chiffres, c'est pas du tout mon sujet. Non, j'avais juste besoin d'avoir confiance en moi sur ce que je voulais, sur ce que j'avais envie de faire, sans trop écouter les autres, ou c'est même pas tellement les autres d'ailleurs, c'est des fois l'image que t'as de toi-même, en tout cas l'image que t'as envie de donner, ou en tout cas ce que tu penses que les autres attendent de toi, enfin tu vois, après je vais rentrer dans des trucs un peu philosophiques, mais... En fait, voilà. Et du coup, je sais pas. Après, j'ai attendu un peu. Je sais plus combien de temps. Un an ou deux ans.
Un siècle et demi. Ouais, c'est...
Non, pas
ça
longtemps.
Non. Pour le coup, j'étais passé à autre chose.
Ouais, bah oui, non, carrément. Bah, tu passes vite à autre chose. Hein, dire,
j'étais passé à autre chose avec cette petite lueur dans ma tête et ce petit espoir quand même
secret. Regret éternel. Je te voyais, t'étais pas bien. Ouais. Je te voyais pleurer tous les jours. J'avais bien senti. Hein.
Ouais, pour le coup, parce que je sentais que c'était au fond de toi quelque chose qui était important et qui était ancré et que tu te le permettais pas.
Ça t'agaçait.
Donc ça m'agaçait.
Je peux comprendre ça. Ça m'agace aussi ce genre de choses.
Puis
du coup,
revenu,
mais c'est moi qui
est revenu
quand même. Je t'ai dit là, maintenant.
Tu m'as supplié, ça aussi pour l'histoire officielle. Tu m'envoies des courriers de je veux vraiment
le faire,
s'il te plaît,
voilà,
offre-moi.
Non, mais ouais, je suis revenue vers toi en disant peut-être que là, maintenant, en fait, j'ai envie et je suis prête.
Ouais.
Et tu m'as dit, cool. Et franchement, j'ai eu le nez fin parce que je t'ai dit ça et 6 mois après, il y avait le Covid. Ce qui était quand même le bon moment, tu vois.
Tu sais choisir tes instants.
Ouais,
tu vois. Pour annoncer les choses. Ouais.
N'empêche que tu sais, quand je réfléchis à un truc et que je le décide, tu vois que derrière, même si ça prend du temps, ou même si je mets du temps à le faire ou t'as l'impression que finalement, j'y ai renoncé... une fois que je l'ai décidé, je le tiens même s'il y a une pandémie,
toi,
tu vois.
C'est toi la maîtresse des horloges.
Non, mais c'est pas ça.
Si.
Mais ce que je veux dire, c'est que si ça avait été un choix non réfléchi, peut-être que la pandémie, ça nous aurait découragés. Au final, le fait d'avoir bien pensé le truc et d'avoir pris le temps de le mettre en place dans ma tête et de l'assumer, en tout cas, derrière, après, je change plus d'avis, quoi. Vous voyez pas sa tête, mais il est un peu catastrophique.
Vous avez entendu le son, en tout cas. Non mais par contre j'ai appris pour le coup ce soir devant des millions d'auditeurs, parce qu'il faut donner les vrais chiffres, que ce goût pour l'événementiel, pour l'organisation d'instants, tu l'as eu plutôt à un moment précis de ta vie qui était l'assaut Electrolab Events et les nuits électro, plutôt que ça germe en toi quand il y a 6-8 ans, ça grossit à 14-15 ans et pas du tout.
D'accord. Ah mais c'est l'inverse de toi, que tu disais que dès le CE2, tu organisais des fêtes et tout. Alors là, je vais te dire, moi, j'ai jamais organisé de fête de
au
ma
CE2,
vie.
Au CE2, t'étais dans la cour de récréation et tu lisais des livres. Tu organisais pas des... Voilà.
Bah oui, moi je suis la première de la classe, tu sais, avec des très bonnes moyennes, la chouchoute des professeurs. Et d'ailleurs, j'ai fait des très grandes et hautes études que j'ai très bien réussi. Et franchement, j'adore, c'est mon délire. Moi, j'avais pu passer ma vie à l'école, j'aurais fait ça. Je suis une fille d'instit, l'école c'est ma maison, c'est ma vie, j'ai adoré ça. Donc moi à l'école, je n'étais pas dans la cour à faire des fêtes ou à essayer pendant les cours de mettre le bazar. Moi, je suis la première table devant le professeur et je reste en perme pour faire mes devoirs, quoi. Enfin, clairement, je faisais pas des fêtes. Et en plus, je suis pas d'une famille où il y a beaucoup de fêtes. C'est-à-dire que ils vont détester quand je vais dire ça, mais enfin ils le savent. C'est pas des gens qui sont festifs, qui organisent des grandes fêtes comme ça. Et d'ailleurs, toutes les fêtes que moi je peux faire, enfin ça les dépasse. Ils comprennent pas ce sujet-là, vraiment. Donc non, c'est pas du tout d'organiser des fêtes qui me plaisaient quand j'étais plus jeune.
Ils pensent que t'as mal tourné, non ?
Non. Non, parce qu'ils m'aiment et donc ils font avec. Et c'est comme ça dans une famille, d'accord ? Non, non, ils pensent pas que j'ai mal tourné, ils ont confiance en moi, je crois, ce qui met quand même une grande pression. Mais c'est pas pour la fête que je le fais vraiment. C'est vraiment pour la rencontre. C'est vraiment pour transmettre quelque chose aux gens. Et tu connais ma passion pour l'histoire. Moi, je suis une grande littéraire, j'adore l'histoire de France. J'adore la culture française, la littérature française, etc. Et donc ça peut paraître hyper futile de faire de l'événementiel, mais c'est tout l'inverse. Un personnage historique que j'adore, qui est Louis XIV par exemple, là, qui est hyper controversé, mais qui pour moi est un personnage qui a vraiment construit le pays, clairement, il avait tout misé sur l'événement. Pourquoi ? Parce que c'est ça dont les gens se rappellent. Quand tu fais des choses dans la vie, tu peux faire les meilleurs tableaux Excel que tu veux, tu peux être la meilleure à l'école, tu peux avoir 19 de moyenne, c'est cool. Mais en fait, les gens, ce qu'ils vont retenir de toi, c'est ce que tu leur as fait vivre, c'est ce qu'ils ont ressenti à tes côtés, c'est une musique qu'ils ont découvert avec toi, c'est un concert qu'ils ont vécu, c'est un film que tu as regardé avec la personne. Enfin, voilà, c'est vraiment des moments avec de l'art, toujours. Il faut de l'art, ça c'est sûr. Et il faut de l'humain. Et donc, on est à une époque où chacun cherche le sens à son travail. Je crois que c'est hyper important de travailler. Et c'est hyper important de se sentir utile. Et je crois vraiment que de rassembler les gens, de trouver le point commun entre tous et de partager de belles émotions, bah, c'est essentiel. Et vraiment, c'est un vrai métier intéressant. J'étais blasée.
Waouh,
tête.
Waouh, waouh, waouh.
Okay.
Non, mais alors, le thème de la rencontre, c'est la base de tous les podcasts, de tous les écrits, de toute la philosophie juillet, donc ça, je ne suis pas étonné. Et ces fameuses rencontres dont tu parles et qui sont au cœur de juillet et qu'on vit au quotidien depuis des années. Depuis la naissance de juillet, est-ce qu'il y a une rencontre ? Une rencontre qui t'a bouleversé, une rencontre qui t'a fait mûrir, évoluer, changer, je sais pas, qui t'a... Ouais, c'est pas une question prévue du tout, ça, mais...
Il y en a eu plein, parce
mais
que...
Alors, ouais. En fait, le problème, c'est que les rencontres, elles sont... Enfin, c'est pas le problème, c'est que les rencontres, elles sont au quotidien. Et des bouleversantes, je pense qu'il y en a presque au quotidien. Mais si tu en avais une seule à dégager de ces 3-4 dernières années.
Non mais évidemment, plus je sais que tu sais très bien qui je vais dire.
Je sais que tu sais.
Non mais en fait, on a vachement de chance parce que en dehors de Juillet et de ce qu'on a créé, qui est voilà une agence événementielle, en fait Juillet c'est beaucoup plus que ça. On a créé une marque autour de ça et une philosophie, enfin que tu décris effectivement. Et on a la chance d'avoir un podcast. Et d'habitude sur le podcast, on interviewe des gens intéressants, tu vois, quand c'est pas mon podcast. Et évidemment, la rencontre qui m'a bouleversée sur Juillet, parce qu'elle est avant le podcast qu'on a fait, parce qu'on a fait deux podcasts avec elle, et parce que c'est une personne incroyable qui m'a beaucoup appris, même sur moi, c'est Safia, évidemment. Évidemment. Mais tu doutes que je vais dire ça. On a rencontré plein de gens qui comptent pour nous, et ce podcast, tous les invités de nos podcasts sont des gens qui ont été importants sur notre chemin à des moments précis. Il n'y en a pas un qui n'a pas compté dans notre vie, sur les podcasts qu'on a fait.
Si, un, mais on ne citera pas le nom.
Oui, c'est vrai, celui le premier. Le premier qui se reconnaîtra.
Le cobaye.
Le cobaye. Mais qui est essentiel, tu plaisances évidemment. Mais Safia, c'est Safia Westphal, alors que j'ai dit, qui est une philosophe qui a de magnifiques chroniques à la télé, sur plusieurs chaînes. Vous regarderez, on a fait deux podcasts avec elle et c'est une personne incroyable, vraiment. et qu'on a rencontré en fait pendant la pandémie et par écran interposé, puisque confiné chez nous, on avait plein de temps de faire des choses, on s'ennuyait beaucoup et on avait parcouru les réseaux sociaux, on avait des reels suggérés et un jour, je tombe sur cette vidéo incroyable où elle parle de l'été invincible. Avec une chronique philosophique vraiment de haute qualité, où elle cite Camus, qui est un de mes auteurs préférés. Et on est en train de créer Juillet, nous. Et on est en train d'avoir, on a trouvé le nom de ce qu'on veut faire. Et on est en train de décliner la philosophie autour de ça en parlant de l'été invincible. Et là, elle me sort une chronique. Et je te l'envoie tout de suite. Et je dis, c'est fou, cette nana, elle parle de nous. Elle parle de Juillet, elle parle de ce qu'on fait, quoi. Et donc, on se dit, on va lui écrire sur Instagram, évidemment. Elle ne nous répondra pas, cette meuf. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous écrit, hyper touchée par ce qu'on lui a dit. Elle regarde les écrits qu'on a faits sur Juillet. Elle regarde ce qu'on propose. Et elle trouve ça génial. Et on décide de se rencontrer. Donc on met un peu de temps parce qu'il y a cette pandémie. Et que voilà. Et on la rencontre. Et là, mais c'est juste... À la fois, on la rencontre, on ne l'a jamais vue. Tu vois, je suis encore émue en parlant aujourd'hui. Et à la fois... On a l'impression de l'avoir toujours connue, quoi. C'était... Donc, ouais. Safia.
Qu'est-ce que tu veux que j'enchaîne après ça?
Tu te débrouilles.
C'est bon. Question pas prévue, donc réponse pas prévue. Résultat, derrière. L'interview qui était préparée depuis des semaines, voilà.
Prends la photo avant, parce qu'après, j'ai le maquillage qui va...
Ouais. Je suis parti de chez Deco l'année dernière, donc à la même période. Tu pars du conseil départemental, toi, pile une année après. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer maintenant ?
Ça va tout changer. Là, on va vraiment bosser. Là.
Ta vie, ma vie, notre vie, qu'est-ce qui va vraiment ? C'est-à-dire que demain matin, on va se réveiller. Il se passe quoi ? Parce que là, on dit, la saison 4, les clients, les prestats, notre crew, personne n'est prêt. Mais vraiment, demain matin, il se passe quoi dans la vie Juillet ?
Attends, il y a un chien.
Ouais. En fait, on avait voulu enregistrer ça, ce
j'aime
podcast.
J'aime pas les chiens en plus. Il y a bien un truc que j'aime pas, c'est les chiens.
Dans un cadre où il y avait des gens autour. On aime bien avoir du bruit, des gens et pour faire des rencontres.
J'avais pas prévu qu'il y ait des chiens.
Mais pour le coup, on n'avait pas prévu les animaux.
J'aime pas trop les chiens.
Et on verra si on le garde au montage ou pas, mais visiblement, le chien n'est pas content. Demain matin, il se passe quoi dans la vie
déjà,
de Charlotte ?
Déjà, demain matin, on va être en vacances parce que ça, c'est important. Non, mais les gens souvent nous charrient...
Demain, on sera le 18 juillet, je te rappelle.
Ouais. Et les gens souvent nous charrient de... juillet, en fait, vous bossez que le mois de juillet. Et en fin de compte, c'est l'inverse. On ne bosse pas le mois de juillet. Limite, c'est le mois, un des mois, enfin, entre guillemets, les plus cool. Alors, on a du taf, évidemment, caché, quoi, du taf administratif, etc. Mais nos gros événements, ils sont finis, finalement, le 18 juillet. Enfin, il ne se passe rien jusqu'en septembre. Parce que là, c'est du boulot caché qu'on va faire nous, chacun de notre côté, et puis un peu en vacances pour préparer la rentrée. Donc, ce qui va se passer demain, c'est que je vais prendre du temps pour moi et pour Juillet pour préparer cette saison 4. Et t'as vu dans mon petit carnet, j'ai noté plein de choses que je t'ai montrées. T'avais noté plein de trucs aussi. Et donc, juillet-août, on va bosser à fond pour préparer une saison 4 qui va forcément être très différente.
Mais qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude ? Parce que pour le coup, c'est des choses que tu faisais déjà avant ça. C'est-à-dire que le mois de juillet, préparer la saison suivante, malgré que tu restes au conseil départemental et que tu sois sur ces deux salles d'ambiance, c'est quelque chose quand même que tu faisais avant.
Ce qui change, c'est que là,
ton cahier, tu l'avais avant et tu mettais des notes écrites aussi.
Ce qui change, c'est que je suis totalement là, disponible pour juillet. Ça change tout. Attends, en termes d'engagement, je vais dire, ça n'a rien à voir. C'est pas facile de tenir deux travails. Sur des demandes hyper différentes et sur des positionnements hyper différents, en essayant de faire correctement les deux. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir pu partir dans ces conditions du conseil départemental aujourd'hui, où j'ai eu la chance d'avoir un employeur qui m'a laissé le temps de partir avec un préavis long où j'ai pu former ma remplaçante. Et en gros, je suis sereine. Là, j'ai laissé mon projet que j'adorais à ma remplaçante qui est top. Et du coup, je suis hyper sereine et libre pour penser juillet autrement. Alors autrement, c'est pas tellement autrement d'ailleurs, parce qu'on avait déjà bien pensé ça ensemble. Mais là, je vais pouvoir avoir vachement plus de temps pour aller voir les clients, prendre le temps de reparler avec les prestataires et puis savourer cette nouvelle vie où je me sens totalement totalement investie dans ce projet qui est voilà, le projet de ma vie, quoi.
Okay. C'était la réponse.
Sachant,
non, mais j'avais envie d'être rassurée aussi, quelque part.
Ah, t'avais peur que je fasse autre chose?
Non, je savais pas. Demain matin, au réveil, encore une fois, c'était une question qui était...
Remarque, je sais pas, ça se trouve, demain matin, je vais t'envoyer un message et je vais te dire, en fait, mais... Ah oh là là, j'ai pas du tout... Je vais repartir. Mais arrête un peu, tu sais très bien.
T'as un mantra qui t'a suivi toutes ces années, ou qui t'a suivi et dont, pour le coup, tu ne t'attaches pas forcément aujourd'hui et t'en as peut-être un nouveau? Enfin, est-ce qu'il y a un mantra qui te suit tout le long de ta vie ou pas du tout? Et ton mantra, c'est toi et toi seul qui te le construit.
Oh, non, il y avait... J'ai beaucoup de références littéraires parce que je lis beaucoup et que
j'aime... On parle pas des références.
Non, mais je te dis que j'aime beaucoup. Mais laisse-moi finir. Mais c'est pareil, il me laisse jamais parler celui-là. C'est moi, là.
C'est la première fois que je te coupe en 25 minutes, 30 minutes.
J'aime beaucoup les poètes. La poésie, c'est un truc que les gens... aujourd'hui, en 2023, les gens ils se disent « Ah, la poésie, c'est ringard. » Il y a très peu de gens qui lisent des ouvrages de poésie parce qu'il y a des chansons et parce qu'ils se disent que c'est vraiment un truc de vieux. C'est une belle bêtise. La poésie, c'est magnifique. Et il y a des beaux poètes contemporains aujourd'hui qui existent. Mais peu importe. Moi, mon poète préféré, c'est Paul Éluard, qui est vraiment un poète de talent, qui faisait d'ailleurs des poèmes sans rime. Alors, bon, bref. Mais il faut lire Paul Éluard si vous avez... du temps et envie de découvrir la poésie. Et donc, il y a une citation de Paul Éluard, évidemment, qui est une des premières de juillet que j'adore, c'est « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et je ne sais pas si c'est un mantra, mais ça fait très longtemps que j'ai ça en tête et que je le pense, parce que à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans la vie, qui peut parfois d'ailleurs être négatif, j'essaie toujours de me dire « Ok, il n'y a pas de hasard ». Donc, quelle est l'opportunité derrière qui se révèle et quel rendez-vous ça te propose, en fait? Et qu'est-ce que tu en fais de ça et comment tu dessines ta vie avec ça? Quand je dis ça, ça fait genre la fille, ah, trop facile. Non, en fait, c'est pas simple. Hein. Dans la vie, tu as des choses où des fois tu te dis, si c'est pas un hasard, bah, merci bien, j'avais pas envie de vivre ça. Mais en gros, de se dire que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
C'est une autre lecture de...
Ah, mais non, mais pour moi, c'est la lecture que j'en ai toujours fait. Okay. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, ça veut dire... C'est un rendez-vous qui t'arrive, qu'est-ce que t'en fais aujourd'hui? C'est un rendez-vous qu'on t'a proposé.
Enfin, tu portes ça quand même, cette phrase, tu la tournes vraiment sur le côté de l'optimisme.
Ouais, en général, c'est comme ça que je
alors
vois.
Alors qu'à la base, c'est pas le sens premier de...
Bah, le sens de premier de la poésie, bah, c'est comme ça, en tout D'accord. cas que non, moi, non, ça m'a guidé dans le sens où s'il n'y a pas de hasard et que c'est un rendez-vous, et que la vie me propose ça, comment je le saisis, comment je vis ça? De toute façon, c'est un rendez-vous qu'on me propose, que la vie me propose, qu'est-ce que j'en fais? Et après, tu peux décider, effectivement, de voir le verre à moitié vide. Hein.
Voilà. Ça, c'est la vraie citation.
Tu peux. Des fois, c'est ce que tu vois. Hein. Mais j'essaye toujours de me dire qu'il faut le voir à moitié plein. Et je trouve que cette citation est hyper optimiste. Non, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous.
Ça fait partie d'une de nos premières citations qu'on a mis en avant.
Et tu sais...
Et c'est celle qui reste récurrente au fil des années.
Et puis moi, j'aime beaucoup l'idée de la surprise et de l'inattendu. On a ça aussi sur juillet. Alors, c'est assez contradictoire parce qu'une agence événementielle, tu dois vraiment cadrer les choses et effectivement dire à ton client qu'il n'y aura pas d'imprévu. En vrai, c'est un mensonge. Il y a toujours des imprévus. Et que l'avantage quand tu as une agence, en tout cas notre travail, c'est de dire les imprévus, on va les gérer et le client ne va pas les voir. Mais évidemment, c'est de la gestion de l'imprévu tout le temps et l'humain, c'est de l'imprévu. Et justement, cette citation d'Éluard, c'est exactement ça, c'est de se dire mais c'est beau l'imprévu. Et en fait, l'imprévu, ça peut être top aussi. Et quand tu le gères et s'il n'y a pas de hasard et s'il y a des imprévus et des surprises qui arrivent, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que ça te dit de la vie? Qu'est-ce que ça te dit de la suite? Et comment tu changes ton chemin avec cet imprévu qui arrive, ce caillou qui arrive dans ta chaussure? Qu'est-ce que t'en fais, quoi? Donc, c'est Patrice Dussault qui nous disait ça. Avec le caillou, est-ce que tu construis un mur? Est-ce que tu construis un pont? Est-ce que tu construis... Voilà. Tu fais ce que tu veux du caillou.
Un autre invité de notre podcast.
Je vais citer tous.
On a cité Vincent, puisqu'il s'est, je pense, reconnu dans du prototype de départ. On a cité Patrice, on cite Safia. Alors là, c'est un moment un peu solennel, parce que pour le coup, c'est une des questions un peu stratégiques de toutes les interviews que tu mènes. Et en plus, c'est une question qui est hyper importante pour toi, je pense qu'encore plus que pour n'importe qui. Donc, je vais essayer de bien la poser. Charlotte. Non. C'est l'avant-dernière question, ça. Charlotte. S'il y a un auteur, s'il y a une œuvre artistique, s'il y a une chanson qui te suit depuis des années, depuis peut-être toute petite, quelque chose qui t'inspire avec un grand T, ça serait quoi? Ça serait qui? Ça serait quand? point d'interrogation. Tu peux te lancer dans ta réponse.
Bah non, mais parce que là, c'est pas... Tu sais, des fois, parce que tu dis que c'est la question qu'on pose tout le temps, c'est pas vrai.
Oh, si,
parce
si,
que tu vois, tu as
les
transformé
stades 92%
mon podcast.
Des fois.
Parce qu'en fait, la question que je pose d'habitude, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un, un personnage qui t'inspire, une personne qui t'inspire.
J'ai ouvert un petit peu le spectre autour de toi.
T'as ouvert sur l'œuvre et tout. Attention, c'est différent. Je tiens à préciser, il faut être...
J'ai voulu te faire galérer, je te l'ai dit.
Non, mais si tu parles de... Sincèrement, c'est pas forcément... Si tu parles de l'enfance et d'un personnage, on va dire, qui en dehors de ma famille, enfant m'a construite ou en tout cas m'a guidée sur la construction de la vie que je voulais ou de la personnalité que j'avais, je vais te dire Renaud. Alors tu vas te dire, ok, elle sort Renaud. Le chanteur français, bien sûr, c'est un chanteur que j'écoutais petite parce que mes parents l'écoutaient. Et que mon père adorait ce chanteur, l'adore je pense toujours d'ailleurs, et tout de suite ce qui petite m'a marqué, c'est la poésie de ses chansons, le texte, parce qu'évidemment c'est pas la voix magnifique de Renaud qui m'a séduite, on est tous d'accord là-dessus, même s'il chante juste, attention, hein. Enfin il chantait juste, mais c'est les textes, et puis... justement, cette mélancolie et cette force de vie qu'il y a dans les textes sur justement l'importance du temps que tu passes, des gens qui t'entourent et aussi cette conscience un peu politique de je veux agir sur le monde et mon passage sur Terre va laisser des traces, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Il est juillet de ouf, Renaud, en fait.
Ouais. Oui. Après, bon, voilà, c'est un artiste aujourd'hui. Alors, en fait, c'est pas facile d'être entier. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est brillant et qui est authentique et entier. Et donc, il a une vie pas facile avec des failles importantes parce que quand on est entier, et qu'on est empathique et qu'on aime les gens et que on vit tout. On vit tout à fond, c'est la citation de Flaubert, je crois, qui dit « Ce qui juste égratigne les gens me déchire, quoi. » C'est exactement ça pour Renaud, je trouve, et ça m'a marqué.
Flaubert ne fait pas partie d'un des
non.
précédents
Gustave Flaubert, ouais, c'est un écrivain. Je crois que c'est lui, j'espère que c'est lui la citation, mais je crois que c'est ce qui effleure les gens me déchire. Et c'est exactement ça pour Renaud, moi c'est ce qui m'a plu chez lui. Et après, de toute façon, c'est des grands chanteurs français, donc c'est Renaud, c'est Barbara, c'est Véronique Sanson, c'est des gens qui sont torturés, c'est des gens qui sont entiers, c'est des gens qui vivent pleinement leur passion, que j'admire énormément. Et alors la poésie de Renaud, voilà, les textes de Renaud, il y a pas, pour moi, il est au-dessus de tous les chanteurs français aujourd'hui. Je le mets même au-dessus de Brassens, au-dessus de Brel, au-dessus de Ferrat, que sa fille adore. Donc si elle écoute ça, elle va dire « Ah, comment ça, au-dessus de tout possible ?» Mais voilà.
On a parlé de demain au réveil, ce que tu allais apporter, ce qui allait changer dans ta vie maintenant à 100% juillet. Donc le demain avec un petit dé, on l'a fait. Mais le demain avec un grand dé, comment tu le vois ?
Ah oui, c'est la question, ça.
Ah, c'est la dernière. Hein. Cette fois, c'est la dernière.
Et oui, bah mon demain avec un grand D, je l'imagine pas trop. J'espère qu'il... je pense qu'il va se dessiner. Je l'espère inattendu, je l'espère pas prévu. J'espère que justement, il n'est pas figé et que je suis totalement auteur de ce qui va se passer. C'est-à-dire que, tu sais, souvent on dit aux gens, il faut être actrice de sa vie. En fait, l'acteur, il joue des textes écrits par les autres. Donc j'ai pas tellement envie d'être acteur, j'ai plutôt envie d'être auteur de ma vie. Et donc mon demain, écoute, je sais pas, je suis en train de l'écrire. J'espère qu'il va me ressembler et surtout ce que je souhaite. Et tu vois, c'est pour citer une autre du podcast, comme ça j'aurais fait. Pour citer Audrey Diallo, j'espère vraiment, en tout cas je veux un demain aligné avec ce que je suis. Et je crois que ça, c'est le plus grand bonheur. C'est-à-dire que quand tu as une vie alignée et que tu portes un projet professionnel qui est aligné avec ce que tu es, eh bien, tu as un bonheur simple et serein. Et voilà, parce que tu es totalement au clair avec tout. Et c'est cool, j'espère ça. Mon demain, je me souhaite ça. En tout cas, je me souhaite d'être alignée.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête. Et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. Laisse les autres t'aider.